Et puis, avant de commencer précisément la conférence de ce soir, ce qui a comme thème la gestion capitaliste de l'eau, nous voulons dire quelques mots à propos de l'intervention militaire française au Mali. Alors, contrairement à ce qu'a prétendu Hollande et le gouvernement au moment de l'envoi de troupes en janvier dernier, l'armée française est en train de s'installer durablement au Mali. Le rapatriement d'une centaine d'hommes, il y a quelques jours, est un geste politique vis-à-vis de l'opinion publique française, pour que le gouvernement n'ait pas l'air de se dédire trop vite, lui qui avait parlé d'un retrait en mars. Sur les 4000 soldats officiellement présents au Mali, le ministre de la Défense, Le Drian, a avoué que la moitié ne serait retirée au plus tôt qu'à la fin de l'été, et qu'il en resterait, je le cite, autour de 1000 pour une durée un peu plus importante. Le ministre des Affaires étrangères, Fabius, a tenu un langage un peu plus clair. Il a annoncé, je le cite, « La France a proposé aux Nations Unies et au gouvernement malien d'avoir une force d'appui française d'un millier d'hommes qui sera permanente, qui sera au Mali et qui sera équipée pour lutter contre le terrorisme. » Nous avons dénoncé l'intervention impérialiste française dès le début. Sous prétexte de lutte contre les milices islamistes, l'armée française est allée défendre les intérêts économiques et politiques des grands groupes industriels et financiers français. Pour toutes ces affaires dans cette zone de l'Afrique, qui est son ancien empire colonial, l'impérialisme français a besoin non seulement de stabilité, mais aussi que les pouvoirs locaux lui soient favorables. C'est la crainte de voir s'installer au cœur de sa zone d'influence un pouvoir politique hostile à ses intérêts qui a poussé le gouvernement français à intervenir militairement. Le sort des populations persécutées par les milices islamistes intégristes n'a été qu'un prétexte. Mais pour l'impérialisme français, il y a loin de la coupe aux lèvres. Et l'annonce du maintien d'une force permanente au Mali est l'aveu que la situation est profondément instable. L'armée malienne, sur laquelle l'impérialisme français veut s'appuyer, était en pleine décomposition quand les milices islamistes sont passées à l'offensive. Et les lambeaux d'armée ont préféré fuir plutôt que de résister, étant bien plus habitués à rançonner et terroriser la population qu'à se battre contre des gens armés. C'est cette même armée à qui l'impérialisme français confie le maintien de l'ordre dans certaines zones reconquises au nord du pays. Et c'est cette même armée qui s'est déjà illustrée par des exactions sur les populations arabes et touaregs. L'armée Touareg, elle, tient encore la ville de Kidal, dans le nord-est du Mali, où elle a nommé un administrateur et où elle refuse toujours officiellement l'autorité de l'armée malienne. À Gao, ville reprise aux milices islamistes, des attentats ont eu lieu en février dernier. Il s'agit des premiers attentats suicides au Mali. Et les affrontements entre l'armée française et les milices islamistes continuent. Même dans la capitale du pays, Bamako, au sud, la situation est instable. Une fusillade entre clans, divers clans de la police, plus ou moins proches du pouvoir, a même eu lieu la semaine dernière. Alors le gouvernement français espère donner un semblant de légitimité et de stabilité au pouvoir actuel, qui lui est issu du putsch militaire de mars 2012, en forçant l'organisation d'élections en juillet. Mais si jamais elles ont lieu, ces élections seront de toute façon une mascarade. Ne serait-ce que parce que près de 400 000 Maliens ont fui leur lieu d'habitation à cause des différents épisodes de guerre. L'intervention militaire française a donc débouché sur une nouvelle situation explosive, qui tend à envenimer les rapports entre les différentes composantes de la population malienne, entre les populations au sud du Mali, entre les Arabes et entre les Touaregs. De ce point de vue, les exemples de la Côte d'Ivoire et du Rwanda montrent jusqu'où peuvent mener les machinations de l'impérialisme français, déterminé à conserver la mainmise sur sa zone d'influence. Et quel coût aura cette opération militaire ? Coût pour les populations locales, qui payent et paieront encore de leur vie ces aventures guerrières, mais aussi coût financier, qu'on fera payer aux travailleurs ici. Ce serait 2 millions d'euros par jour que l'armée française dépense depuis son arrivée. Et ces sommes considérables, pour un petit pays pauvre comme le Mali, sont utilisées non pas pour l'aider à se développer, mais pour le dévaster. Alors, face à l'intervention impérialiste française et face à tous ces clans militaires ou mafieux, ou les deux à la fois, qui vivent en parasitant et en terrorisant la population, les travailleurs maliens, quelle que soit leur origine, ne pourront vivre en paix que s'ils prennent leur sort en main eux-mêmes et se débarrassent de tous les exploiteurs. Quant à nous, ici en France, nous devons dénoncer toutes les interventions guerrières de notre propre impérialisme, quels que soient les prétextes sous lesquels il les maquille. Et nous devons aussi dénoncer la domination impérialiste en elle-même et son corollaire, le poison du chauvinisme, qui vise à nous rendre complices des pillages dont sont responsables nos propres oppresseurs. Donc nous allons passer à ce cercle Léon Trotsky qui a pour thème et pour titre la gestion capitaliste de l'eau, irresponsabilité et raquette. Alors 2013 est, paraît-il, l'année internationale de l'eau. L'eau est bien sûr une ressource essentielle. La vie a été possible sur Terre parce que peu après sa formation, la Terre s'est recouverte d'eau, une quantité gigantesque évaluée à 1,38 milliard de mètres cubes, de quoi recouvrir toute la surface du globe d'une épaisseur de 2600 mètres. Ce ne fut pas le cas pour la planète Mars, par exemple, qui a perdu toute son eau, sauf un peu de glace, il y a 3,5 milliards d'années, y rendant la vie impossible. Une partie de l'eau présente sur Terre, environ 2%, se trouve sous forme de glace. L'essentiel de l'eau se trouve bien sûr sous forme liquide. Dans les mers et les océans d'abord, pour 97%, puis dans les nappes souterraines, environ 1%, et enfin dans les lacs et les rivières, mais là c'est négligeable, 0,02%. La Terre possède donc des réserves d'eau considérables, et qui globalement ne diminuent pas. Bien sûr, toute cette eau n'est pas directement accessible, utilisable et encore moins consommable. D'abord parce que l'eau salée des mers et des océans, outre le fait qu'elle est difficilement accessible à ceux qui vivent loin des côtes, ne peut être exploitée qu'après une coûteuse opération de dessalement. La quantité d'eau directement utilisable pour les activités humaines, et notamment pour l'alimentation, se limite donc à la quantité d'eau douce disponible, ce qui fait déjà beaucoup moins. Malgré cela, il resterait assez d'eau douce pour couvrir tous les besoins humains si celle-ci n'était pas partout accessible. C'est-à-dire bien répartie, ce qui est loin d'être le cas. Et sur cette question, comme sur bien d'autres, l'organisation sociale est un facteur déterminant. À une période qu'on a appelée le néolithique, qui correspond à environ moins 9000 ou moins 3000 ans avant notre ère, entre moins 9000 et moins 3000 avant notre ère, l'espèce humaine a commencé à produire elle-même sa subsistance et ne s'est plus contentée de vivre en prédateur sur la nature. Cette période a été marquée par une relative sédentarisation et l'apparition de l'élevage et de l'agriculture. Les premières civilisations ont toutes émergé autour de grandes vallées fluviales, celles de Sumer en Mésopotamie, entre le Tigre et l'Euphrate, celles de l'Égypte, autour du Nil, la civilisation du fleuve Indus au Pakistan, ou encore celle du fleuve Huanghe en Chine. C'est la maîtrise des crues et la mise en place d'un système d'irrigation sophistiqué qui permit un accroissement considérable de la productivité en agriculture, avec simultanément l'apparition des premiers États, dont un des rôles majeurs fut la régulation de l'eau. Aujourd'hui, avec des progrès dans le domaine scientifique et technique considérables, en particulier depuis l'avènement du capitalisme, l'humanité dispose de moyens sans commune mesure avec ceux de l'Antiquité, pour permettre une utilisation maîtrisée et raisonnée de l'eau. Mais force est de constater que c'est loin d'être le cas. Les moyens techniques existent, mais c'est l'organisation économique qui ne permet pas de satisfaire ce besoin élémentaire pour le plus grand nombre. Confrontée à la question essentielle des besoins en eau de l'humanité, la société capitaliste n'apporte pas de réponse satisfaisante. Et la situation est amenée à se dégrader davantage, du fait de l'irresponsabilité d'un système économique égoïste et d'une organisation sociale dépassée. Le capitalisme, s'il ne fait pas la pluie ou le beau temps, s'il n'est pas la cause de la répartition inégale des ressources naturelles en eau, est par contre incapable d'en prévenir ou d'en atténuer les conséquences. Non pas pour des raisons techniques, mais parce que ses priorités sont ailleurs parce que la recherche du profit individuel et à court terme des capitalistes est incompatible avec la satisfaction des besoins du plus grand nombre. Et sur ce sujet, je passe la parole à mon camarade Jean-Michel Fontin.
Bonsoir. Alors, depuis toujours, les populations se sont installées et développées là où elles pouvaient avoir aisément accès à l'eau. Dès les premières civilisations de l'Antiquité, le degré de développement a été directement lié au degré de maîtrise et d'efficacité dans la gestion de l'eau. Aux alentours de 3000 avant notre ère, les Égyptiens commencèrent à édifier des digues dans la vallée du Nil pour protéger les villages des crues qui survenaient chaque année à la mi-juillet. Ces digues étaient complétées d'un vaste réseau d'irrigation qui permettait de retenir l'eau et de la conduire sur des terres que la crue ne pouvait atteindre. Le pharaon, le roi, disposait d'une armée de fonctionnaires, les scribes, qui utilisaient toutes sortes d'instruments, dont des échelles graduées, les nilomètres, pour déterminer les surfaces inondées et fertilisées par les limons du Nil, et ainsi évaluer la récolte à venir. L'impôt était calculé en fonction de la surface des terres et de leur irrigation. Si les digues s'effondraient, c'était la catastrophe dans les villages, et si les canaux s'envasaient, l'eau n'arrivait plus sur les terres. Chaque paysan devait des jours de corvée pour ce colossal travail d'entretien qui était administré centralement. Ainsi, dans l'Égypte ancienne, l'État a mis en place une politique de l'eau permettant de développer l'agriculture ainsi qu'une civilisation qui a duré plusieurs millénaires. D'ailleurs, l'importance du rôle de l'État dans la gestion de l'eau se retrouve à l'aube de bien des civilisations. En Chine, pour lutter contre les crues du fleuve jaune, le Huanghe, qui est au nord du pays, 2000 ans avant notre ère, l'État réussit à mobiliser jusqu'à 280 000 personnes pour édifier des digues. Plus tard, en moins 500, commença la construction du Grand Canal qui relia le sud au nord. Il illustre le savoir-faire chinois dans le domaine de l'ingénierie hydraulique, pont à tablier coulissant, écluse, pompe à godet, noria, qui impressionna d'ailleurs l'explorateur Marco Polo lorsqu'il arriva à Chine en 1275. Sa construction dura plusieurs siècles. Il servait au transport de troupes et de marchandises, le sel et les grains, à l'irrigation des terres agricoles, à l'exploitation des richesses du bassin du fleuve jaune et à créer une unité politique et économique dans une Chine morcelée. Il mesure 1800 km de long et reste, aujourd'hui encore, le plus long canal du monde. Avec l'apparition des villes, l'approvisionnement en eau des populations a demandé une organisation, un système de distribution élaboré qui implique une solution collective. Dans les grandes villes de la civilisation du fleuve Indus, comme Harappa ou Mohenjo-Daro, la planification urbaine incluait le premier système au monde de collecte des eaux usées. À l'intérieur des villes, l'eau était tirée de puits. Dans les maisons, une pièce était destinée aux ablutions. Les eaux usées étaient dirigées vers des égouts couverts qui longeaient les rues principales. De grands bains publics s'ouvraient au milieu de la cité. Presque deux millénaires plus tard, Rome, avec ses aqueducs, ses thermes, ses bains publics et ses égouts, ses fontaines, marquera une nouvelle étape dans le génie urbanistique. Le Moyen-Âge en Europe, même s'il a inventé le moulin à eau, marquera un recul des villes et de leur équipement. Les villes étaient insalubres et l'approvisionnement en eau problématique était souvent assuré par des porteurs d'eau nombreux et très mal payés. Il faut attendre la révolution industrielle, au début du capitalisme, pour voir les villes se développer dans des proportions considérables. Malgré le développement anarchique des villes industrielles, l'Angleterre avait résolu depuis la fin du XVIIIe siècle les problèmes de base posés par la distribution de l'eau dans les villes, mais à la manière du capitalisme. Dès 1808, ce sont des compagnies privées qui ont créé un réseau de canalisation et géré l'eau de la ville de Manchester. mais seulement 23% de la population était raccordée au réseau. Les quartiers ouvriers ont été laissés à l'abandon, dont l'insalubrité. On s'est d'abord préoccupé de la création d'un grand canal pour le transport des marchandises et d'un système de distribution d'eau pour l'industrie cotonnière. Alors, au berceau de la civilisation, le rôle des États fut donc majeur dans le contrôle, la gestion et la régulation de l'eau. Si aujourd'hui le rôle de l'État reste important, ce n'est pas qu'il assure lui-même la gestion de l'eau. De ce point de vue, il serait plutôt défaillant. Non, son rôle est de favoriser l'initiative privée, comme on dit. Expression à la mode, mais bien mensongère, car le privé ne conçoit d'initiative que poussée par l'appât du gain. Soit dit en passant que même le terme d'initiative privée dans la bouche des responsables politiques témoigne en creux de la démission de l'État dans un secteur pourtant vital. C'est qu'en réalité, le rôle de l'État est de favoriser l'enrichissement de la classe dominante, la bourgeoisie, de garantir, de perpétuer, de préserver la propriété bourgeoise. Et s'il est un domaine où le capital peut s'engraisser de manière abondante et durable, c'est bien celui de l'eau. Il s'engraisse à l'ombre de l'État, il s'engraisse avec la complicité et la protection des pouvoirs publics et de son personnel politique. Il s'engraisse en faisant payer un lourd tribut à la société. La gestion capitaliste de l'eau, ce sont aujourd'hui ces entreprises mondialement connues comme Veolia ou Suez, qui, bien que françaises, sont de parfaits exemples de ce que l'on appelle les multinationales. L'eau est un secteur où le capital est particulièrement concentré. On y observe en grand toutes les tendances déjà décrites en 1916 par Lénine dans l'impérialisme stade suprême du capitalisme, constitution de monopoles et de cartels, c'est-à-dire entente entre les différentes entreprises d'un secteur pour éviter la concurrence entre elles, se partager les marchés et fixer les prix, exportation des capitaux pour l'extension de leurs marchés à l'échelle du monde, rôle accru et prépondérant de la finance. Je vais parler d'abord de la plus grosse, la plus emblématique de ces sociétés, celle qu'on a même appelée la pieuvre, et qui s'est dénommée successivement Compagnie Générale des Eaux, CGE, Vivendi, puis aujourd'hui Veolia. La CGE est née en 1853, à l'époque du capitalisme florissant, par un décret de Napoléon III. Elle obtient immédiatement à Lyon un contrat de fourniture d'eau pour 20 ans, à des conditions non révisables, puis l'année suivante, Nantes lui concède la distribution d'eau pour une durée de 60 ans, et en 1860, Paris suivra avec une concession pour 50 ans. Le nouveau-né a été bien nourri dès le départ et est devenu de plus en plus gourmand. Prospérant avec la bienveillante garantie des pouvoirs publics sur des marchés captifs et dans des conditions contractuelles qui étaient pour l'époque du jamais vu. La mondialisation, que d'aucuns prennent pour un phénomène tout récent, a marqué le capitalisme dès le départ. Ainsi, en 1880, la CGE obtient son premier contrat à l'étranger, Venise. Constantinople suivra un an plus tard, et en 1883, Porto. En 1884, la CGE diversifie pour la première fois ses activités en obtenant à Reims un contrat pour le traitement des eaux usées. En 1953, pour son centenaire, 8 millions de personnes étaient approvisionnées en eau potable en France. La société développe son activité dans de nouveaux services comme la collecte des ordures ménagères. En 1980 commence une grande période de fusion et acquisition qui s'accélérera dans la décennie suivante. Entreprises de transport, de propreté et gestion de déchets, de chauffage urbain, de construction, d'éclairage public. Avec l'arrivée du PDG Jean-Marie Messier en 1996, son expansion connaît un développement phénoménal, surtout à l'international. En 10 ans, le chiffre d'affaires de la CGE dans le secteur de la propreté urbaine et des transports a été multiplié par 60 et dans celui de l'eau par 8. En 1998, la CGE devient Vivendi. Et en 1999, elle achète US Filter, le numéro 1 américain du traitement de l'eau. Fusionne avec Pathé, qui est propriétaire des cinémas Gaumont, puis en 2000 avec Canal+ et Seagram, qui qui sont propriétaires des studios Universal pour devenir Vivendi Universal. En 2003, elle avale SFR CGTEL et bien d'autres entreprises des télécoms ou médias. Tout cela avec la bénédiction des banques qui ont prêté sans compter pour réaliser ces acquisitions. Au moment du départ de Messier, l'endettement colossal de Vivendi Environnement se monte à 15 milliards d'euros, celui de Vivendi Universal à 19 milliards. Cet endettement cause l'effondrement de son titre boursier et la chute de son PDG mégalomane. La multinationale doit céder alors une partie de ses actifs pour se redresser. Cela entraîne la séparation de Vivendi Universal, qui va continuer dans la branche musique et télécom, et des autres branches qui deviennent en 2003 Veolia et ses filiales. Malgré cet accident de parcours, Veolia Environnement, avec sa filiale Veolia Eau, reste aujourd'hui le numéro 1 mondial du secteur de l'eau et de l'assainissement et emploie 331 000 personnes dans le monde. À l'image de Veolia, la concentration du capital dans ce secteur s'est poursuivie partout dans le monde et aujourd'hui, une petite dizaine de multinationales se partagent le marché mondial de la distribution et de l'assainissement. Citons le numéro 2 mondial, bien connu en France, puisqu'il s'agit de Suez Environnement, fusion de Suez et de la Lyonnaise des Eaux, aujourd'hui filiale de GDF Suez. En France, trois grandes sociétés se partagent le marché. Veolia et Suez, dont je viens de parler, et le troisième larron, le petit si on peut dire, la SOR, qui gère quand même l'eau dans 6700 communes rien qu'en France, représentant 5,5 millions d'habitants. En 2009, les trois sœurs, comme on les appelle, desservaient 60% de la population française en eau potable et en géraient l'assainissement de 40%. Il faut noter que l'installation des réseaux d'eau potable et leur gestion ne se sont jamais faites au niveau national, comme ce fut le cas pour l'électricité. Les communes ont le choix aujourd'hui entre une gestion de l'eau directe, dite en régie, et une délégation de services publics sous la forme de contrats avec une entreprise privée. Depuis de nombreuses années, des associations de consommateurs, voire d'élus, dénonçaient le prix anormalement élevé du mètre cube, son évolution trop rapide et l'opacité qui règne dans la fixation de ce prix. En 2008, par exemple, le magazine Que Choisir, après enquête par des experts indépendants, a publié une étude détaillée concluant que les prix pratiqués dans les grandes agglomérations urbaines étaient souvent très abusifs. Par exemple, à Marseille et à Gennevilliers, il était 2,2 fois plus élevé que son prix de revient. 1,8 fois à Montpellier, 1,7 fois à Toulouse, 1,6 fois à Nice, etc. Cette enquête indiquait également que dans les agglomérations qui étaient restées en régie municipale, le prix de l'eau était en moyenne 30% moins cher. La gestion de l'eau en France est une aberration. Elle devrait être un service public assuré au niveau national avec une péréquation des frais à cet échelon. Le prix de l'électricité ne dépend pas de l'endroit où on habite. Il devrait en être de même pour le prix de l'eau. Alors qu'un habitant d'Auxerre paye 1,79 euros le mètre cube d'eau, celui de Quiberon devra débourser 5 euros. Personne ne comprend pourquoi à Saint-Étienne le prix de l'eau est de 3,53 euros par mètre cube, alors qu'il est de 2,71 à Clermont-Ferrand. En outre, la plupart des communes, même celles fonctionnant en régie, ont mis en place une tarification dégressive qui privilégie les gros clients. Le prix est plus élevé lorsqu'on consomme peu, ce qui fait que bien des petits consommateurs, en particulier les pauvres, ou ceux qui ont le souci d'économiser l'eau, paieront plus que le prix annoncé. Le prix moyen en France est en général donné pour 120 mètres cubes de consommation. Mais si on regarde les détails, pour ceux qui consomment, il est en moyenne donc de 3,08 euros par mètre cube sur cette moyenne de 120 mètres cubes de consommation, mais en réalité, il est de 5,40 euros pour ceux qui consomment moins de 30 mètres cubes. Les petits payent pour les gros. Par quel miracle l'eau se transforme-t-elle non en vin, mais en profit, et on devrait dire en surprofit ? Le profit, c'est le tribut que la société paye au capital dans une situation de concurrence, où le prix se règle par la loi de l'offre et de la demande. Le surprofit, c'est ce que l'on paye au capital en situation de monopole, et c'est bien le cas ici. Les trois multinationales ont constitué depuis longtemps un cartel de fait, en s'entendant sur les prix et surtout en évitant de se faire directement concurrence. Elles se sont partagées le territoire national et s'entendent pour répondre aux appels d'offres de manière concertée et permettre ainsi le maintien d'un prix anormalement élevé. Dans de nombreux appels d'offres, une seule répond, ou alors les autres présentent des dossiers bidons qui ne pourront pas être retenus, laissant la compagnie prévue entre elles décrocher l'appel d'offres. La CGE et la Lyonnaise des Eaux ont même poussé le cartel jusqu'à créer de nombreuses filiales communes, les Eaux du Nord, la Société des Eaux de Marseille, de même à Saint-Étienne, Versailles, Nancy. En juillet 2002, le Conseil de la concurrence a demandé au ministre de l'Économie d'enjoindre aux sociétés mères de démanteler ces filiales communes, estimant toutefois, je cite, qu'il n'y avait pas lieu de prononcer de sanctions pécuniaires à l'encontre de ces sociétés. Ben voyons. Cinq ans plus tard, la ministre Christine Lagarde a indiqué que des discussions étaient en cours, mais comme l'expliquera le journal Le Monde, celles-ci n'ont pas abouti. Et je cite Le Monde, « La ministre a expliqué qu'elle avait enjoint aux sociétés de trouver une solution dans les 6 mois, à mettre en œuvre avant 2 ans, faute de quoi elle prendra elle-même les mesures nécessaires. » Et le journal de conclure que ces mesures étaient toujours à l'étude. L'argument invoqué par le Conseil de la concurrence était abus de position dominante. C'est le moins que l'on puisse dire, mais le racket généralisé des consommateurs, lui, n'a pas ému les autorités. Finalement, à partir de 2009, après des mois de négociations, Veolia et Suez ont fini par décroiser leur filiale commune en se partageant à l'amiable les morceaux. Cela ne signifie pas pour autant la fin du cartel, des ententes illicites sur les prix et surtout de l'opacité avec laquelle les prix sont fixés. Les bilans comptables qui sont présentés aux communes ne permettent absolument pas à celles-ci de contrôler véritablement les comptes, car ils intègrent des frais généraux communs à de nombreux contrats, frais de locaux, de personnel, d'informatique, etc., invérifiables par une commune isolée. Citons un rapport des experts de Service Public 2000, une émanation de l'Association des maires de France. Je cite, « L'informatique imputée pour le suivi clientèle est surévaluée. Cette informatique est en commune à de nombreux contrats Vivendi. » Ou encore, la SAD, alors c'est une filiale chargée d'installer les canalisations d'eau potable et les compteurs, la SAD donc, a refusé, en accord avec Vivendi, de justifier ses charges. Fin de citation. À Bordeaux, par exemple, la distribution d'eau est assurée par Suez. Les comptes ont été expertisés par un expert indépendant qui a mis à jour de nombreuses irrégularités. Ainsi, les compteurs d'eau étaient facturés pour un amortissement sur 12 ans, alors qu'en réalité, ils ne sont remplacés que tous les 24 ans. Les branchements de canalisation contenant du plomb devaient être remplacés à un rythme de 6 000 par an, alors qu'ils ne l'ont été qu'à un rythme de 1 000, 1 500. En 2006, sur la base de cette expertise, la communauté urbaine de Bordeaux a obligé Suez à un avenant au contrat. Le groupe a dû lui rembourser 233 millions d'euros qu'il avait encaissés grâce à des manœuvres financières abusives, plus d'un quart de milliard rien que pour une seule agglomération. Mais c'est toujours Suez qui gère l'eau aujourd'hui à Bordeaux. En France, une part importante des canalisations d'eau sont vieillissantes, dépassant parfois 50 ans, ce qui entraîne non seulement une dégradation de la qualité de l'eau, mais aussi des déperditions importantes, 25% de fuites en moyenne sur les réseaux. Afin de garantir la continuité du service, les sociétés exploitantes ont pourtant à leur charge de réparer ou renouveler tout équipement défaillant, infrastructure, canalisation. Alors, pour financer ces opérations de renouvellement, elles ont constitué ce qu'on appelait des provisions, avec une partie des factures payées par les abonnés. Ces provisions, Représentant pour la Compagnie Générale des Eaux la bagatelle de 27 milliards de francs en 1996, avait été groupé au sein d'une société filiale basée en Irlande où l'impôt sur les sociétés est particulièrement bas. Ce capital, placé dans des opérations spéculatives, a rapporté environ 4 millions de francs, mais pas au profit des usagers. Mais le malheur, si on peut dire, c'est que la manne a fondu, à cause peut-être de spéculations hasardeuses, mais surtout parce que le PDG de l'époque, Jean-Marie Messier, a largement puisé dans le magot pour éponger les dettes du groupe et faire des investissements dans le secteur de la communication. L'argent a disparu. Les canalisations sont restées vétustes et les travaux de rénovation n'ont pas été effectués alors que les usagers les ont payés. Il a fallu plusieurs enquêtes pour révéler ce poteau rose, tant la comptabilité de ses délégataires est intentionnellement opaque. En attendant, d'innombrables communes ont vu s'enfuir les provisions alors que leur réseau nécessitait des rénovations. L'argent envolé aurait permis, par exemple, de changer les branchements en plomb pour réduire les risques de saturnisme. Mais le monde des multinationales est bien pensé, à défaut d'être bien fait. Ils ont tout prévu et ont ainsi réalisé des bénéfices importants en vendant des filtres anti-plomb aux particuliers. Selon Jean-Luc Touly, un ancien cadre de Veolia, je cite, « Les multinationales forment des cadres pour discuter d'une certaine manière avec les élus. Ainsi, il faut persuader les représentants des collectivités que le flou des rapports annuels n'est que le juste reflet de la complexité des comptes. Et il y a des documents que ces agents ne doivent surtout pas laisser aux collectivités. Ainsi, les documents relatifs à la restitution des provisions de renouvellement non dépensées en fin de contrat ou à la marge cachée sur la sous-traitance, la marge d'exploitation, ainsi que ceux qui concernent les charges et produits financiers. Précisons que Jean-Luc Touly, qui a révélé ses pratiques, a été bombardé de procès en diffamation qu'il a tous gagnés. Ce que le comportement de ces trusts montre, c'est que le contrôle de la comptabilité des entreprises est une revendication essentielle pour mettre à jour la manière dont le capital s'engraisse sur le dos de la population. Les multinationales ne se contentent pas de pomper l'eau des rivières et des nappes, elles pompent l'argent dans nos poches. La concentration du capital, la puissance de ces mastodontes leur donne des moyens de nuisance démultipliés. Et comme pour tous les grands groupes, les techniques pour convaincre les décideurs sont toujours les mêmes, lobbying et corruption. Une méthode devenue illégale en 1995, mais qui a été longtemps pratiquée pour amadouer les élus, est ce que l'on appelle le droit d'entrée ou ticket d'entrée. On offre une somme importante à la commune en échange d'un contrat de longue durée. Cela revient à un prêt que le distributeur fait à la commune, mais que les usagers vont ensuite rembourser sur leur facture d'eau avec des intérêts souvent exorbitants. L'avantage pour le maire est de disposer d'une belle cagnotte pour faire de jolis travaux, de préférence juste avant les élections municipales, et assurer ainsi sa réélection. À Toulouse, par exemple, l'ancien maire Dominique Baudis a ainsi bénéficié en 1990 d'une cagnotte de 437 millions de francs en échange d'une concession à la CGE pour 30 ans, ce qui lui a permis de se vanter de la bonne santé des comptes municipaux. La CGE avait le droit de prélever les intérêts directement sur la facture d'eau des usagers, avec un taux d'environ 10%. Au final, les habitants ont remboursé 2,5 fois à 3 fois le montant de ce droit d'entrée, soit plus d'1 milliard de francs. Après les conclusions d'un audit commandé par la nouvelle municipalité fin 2008, le contrat a été renégocié avec une baisse du prix de l'eau de 25%, comme quoi ils ont de la marge. À Lille, le droit d'entrée a servi à financer un stade, à Montpellier, un palais des congrès, et dans de nombreuses communes, à diminuer les dettes. Il y a aussi, bien sûr, des cas de corruption avérés. Comment pourrait-il en être autrement lorsque les sommes en jeu sont aussi importantes, que tout le système est organisé de manière opaque, que ceux qui sont condamnés, rarement, sont les élus, mais pratiquement jamais les sociétés corruptrices. Pour un cas révélé, combien reste dans l'ombre ? Mais à travers les quelques affaires qui sont allées en justice et qui permettent de lever un petit coin du voile, on est en droit d'affirmer que les multinationales de l'eau sont de gigantesques machines de corruption. Le cas le plus notoire est celui de l'ancien maire de Grenoble, Alain Carignon, qui a délégué en 1989 le service des eaux de la ville à la Lyonnaise des eaux en échange de menus cadeaux. Financement de campagne électorale, voyages, croisières pour 2 millions d'euros. Pris la main dans le sac, il fera un séjour en prison. Des hauts cadres de la Lyonnaise des eaux ont également été condamnés, mais pas la personne morale, la Lyonnaise des eaux elle-même. Autre exemple, sous la respectable dénomination de voyage d'études justifiée par la visite d'installations modèles, bien des élus se sont laissés offrir de véritables petites vacances à Saragosse, en Guadeloupe, etc. Voilà, par exemple, ce que la Cour des comptes de la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a contrôlé les comptes d'une filiale locale, a trouvé. Je cite. Une soirée étape à Mougins offerte à un cadre de l'agence de l'eau pour 4 140 francs la soirée. Une participation à hauteur de 10 000 francs en 1994 au cantonal. Des voyages à Malte et en Sardaigne pour un négociateur payé sans contrat pour 170 000 francs. Honoraires pour un avocat sans qu'aucune justification n'ait pu être produite pour un montant de 270 000 francs. Deux factures d'un cabinet d'audit pour un montant de 1 362 922 francs. Un voyage et séjour à Cardiff pour quatre personnes, dont deux élus du Var, pour un montant de 32 004 francs. Le scandale révélé par certaines affaires, en particulier celle de Grenoble, est loin d'avoir fait cesser ces pratiques, mais les a rendues plus sophistiquées. Précisons que les réseaux d'influence et la corruption ne sont pas une spécificité du secteur de l'eau. On retrouve cela dans tous les grands secteurs qui dominent l'économie capitaliste. Banque, assurance, industrie pharmaceutique, pétrole, BTP, armement, etc. La corruption est un mal inhérent au capitalisme et ne pourra disparaître qu'avec lui. Elle s'appuie sur le manque de transparence, la quasi-impossibilité de contrôler réellement la comptabilité des grandes sociétés, sur les paradis fiscaux, sur des réseaux d'influence étendus. Les garde-fous que les législations ont prévus limitent un peu certaines pratiques, mais à la marge, et servent surtout à faire croire en la possibilité de moraliser le système. Les multinationales disposent de bien d'autres moyens pour influencer les élus. Le lobbying est une pratique considérée comme tout à fait légale. Dans les universités, par exemple, à Montpellier 2, Suez finance une chaire Suez à l'école des eaux et forêts. Et Veolia, une chaire Veolia, dans le cadre d'un pôle de compétitivité eau. Il existe aussi des chaires Veolia et Suez, entre autres à Strasbourg, Limoges, Nancy, Lyon, Toulouse, Berlin, etc. Même si elles participent ainsi au financement de l'université, elles bénéficient en retour d'une mise à leur service de la recherche scientifique. Même certaines associations environnementales sont largement financées, par exemple dans des campagnes sur la propreté. Veolia Propreté finance France Nature Environnement, mais aussi Action contre la faim, la Croix-Rouge, le Secours catholique. Vis-à-vis des institutions européennes, Veolia entretient un incroyable réseau de lobbying contenant plus d'une cinquantaine de cellules spécialisées, réseau aussi ramifié que possible pour que le bon message passe par un maximum de canaux. Veolia contrôle de très près un organisme qui conseille la Commission européenne sur des projets de recherche financés par l'Europe. Veolia est le principal sponsor de cet organisme, la plateforme technologique pour l'eau et l'assainissement. 3 de ses membres sur 10 sont cadres à Veolia. D'après Daniel Mitterrand, je cite, « Le système est une véritable dictature économique et l'eau est otage de cette dictature économique », si c'est elle qui le dit. Une autre technique bien connue consiste à proposer à des grands commis de l'État ou à des personnes influentes, ex-membres de la Cour des comptes ou du Conseil d'État par exemple, des sinécures dorées grassement payées par la société pour un travail théorique et invérifiable, des chargés de mission, comme on dit, en réalité pour faire jouer leurs relations. Les liens entre le monde de l'entreprise et le personnel politique sont étroits. Citons par exemple Anne Hidalgo, ex-adjointe à la direction des ressources humaines de la CGE, en même temps que collaboratrice de Martine Aubry, et aujourd'hui première adjointe et future candidate à la mairie de Paris. De Villepin, qui fut conseiller international chez Veolia. Éric Besson, qui était à la tête de la fondation Vivendi entre 1998 et 2002. Ou encore Jérôme Monod, PDG de Suez, puis conseiller de Chirac à l'Élysée. Mais indépendamment des liens affairistes entre l'État et les multinationales, de la corruption, des magouilles, de la situation de monopole qui permet d'assurer à ces entreprises un surprofit, si on enlevait ce surprofit, il resterait le profit tout court, c'est-à-dire le tribut habituel que la société paye au capital privé. Cela est considéré comme moral, mais pour nous, c'est tout aussi aberrant. Qu'il soit véreux ou non, pourquoi faudrait-il nourrir des intérêts privés pour assurer la gestion des services publics de l'eau et de l'assainissement ? La répétition des scandales, un prix de l'eau bien plus cher, les pressions de certaines associations, mais aussi certains calculs politiques ont convaincu quelques maires d'en finir avec la délégation de l'eau aux multinationales et de retourner en régie municipal. Grenoble en 1999, après l'affaire Carignan, Castres en 2003, Cherbourg en 2005, Rouen en 2009, Rennes, c'est prévu pour 2015. En brandissant la menace d'un retour en régie publique, certaines villes ont obtenu de substantielles baisses de factures. Ainsi, la ville d'Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques, a contraint Suez à une baisse de 61% du prix du mètre cube et de 20% du prix de l'abonnement. Mais le cas le plus emblématique est celui de Paris. Jusqu'en 2009, la gestion de l'eau était assurée par Suez lyonnaise pour la rive gauche, et par la CGE Veolia pour la rive droite. Le prix de l'eau, chacun sa part, hein. Le prix de l'eau avait plus que doublé dans les 10 années précédentes. Le contrat prévoyait même une augmentation mécanique du prix en cas de baisse de la consommation globale, fournissant ainsi une rente garantie aux distributeurs. Les contrats arrivant à échéance, Delannoy a donc choisi la municipalisation sous le label Eau de Paris. La ville estime gagner 30 millions d'euros par an avec le retour en régie. Les communes revenues en régie publique ne le regrettent pas ni en termes de qualité de l'eau, ni bien sûr en termes de coûts. Si certains élus, plutôt de gauche, mais pas uniquement, ont fait ce choix, c'est aussi par calcul politique. Cela a un fort impact électoral, en particulier chez les électeurs de sensibilité écologiste. Les scandales autour de la gestion privée de l'eau, le comportement des multinationales ont suffisamment choqué l'opinion pour que le retour en régie soit revenu à la mode. Bien sûr, nous sommes favorables au retour de la gestion de l'eau en régie municipale, sans pour autant présenter cela comme une panacée. Je l'ai dit, ce qui serait nécessaire, c'est un véritable service public de l'eau géré au niveau national, avec une péréquation nationale du prix de l'eau et même la gratuité pour ce qui concerne la consommation domestique usuelle. À titre d'exemple, la municipalité de Libourne, en Gironde, a décidé fin septembre 2010 de rendre quasiment gratuit 10 centimes d'euros par mètre cube les 15 premiers mètres cubes consommés, soit environ 40 litres par jour par abonné, et d'appliquer au-delà une tarification progressive. Le mouvement de remunicipalisation reste cependant assez marginal, et n'a concerné que quelques villes. Ce qui n'empêche pas Veolia de se plaindre de difficultés. Ils viennent d'ailleurs d'annoncer le 20 mars dernier un plan de suppression d'emplois de 1 500 personnes dans la branche eau en France. Après avoir volé des millions de consommateurs, ils osent présenter la note aux salariés. Et puis, s'il est un exemple emblématique de gestion restée au privé, c'est celui du SEDIF, Syndicat des eaux d'Île-de-France, structure qui gère l'eau dans 144 communes de l'Île-de-France. C'est la CGE qui était le délégataire pour ce groupement de communes depuis 1923, son plus gros contrat en Europe, représentant autour de 3% de son chiffre d'affaires mondial. Le contrat arrivait à échéance en 2010. Malgré les rapports accablants de la Cour des comptes et différentes affaires révélant les liens troubles entre Veolia et des élus de toutes tendances, malgré les surfacturations révélées depuis 2008, malgré les poursuites judiciaires contre son président André Santini, maire d'Issy-les-Moulineaux, le contrat a été reconduit jusqu'en 2022. Qu'on se rassure, Veolia ne sera pas sur la paille. Non seulement les capitalistes transforment pour eux l'eau en or bleu, du fait du racket de la population, mais en plus ils sont nuisibles parce que la qualité de l'eau est le cadet de leurs soucis. Plus elle est polluée, plus il coûte cher à la collectivité de la dépolluer, plus cela rapporte. Pour les entreprises privées, une eau polluée est une eau qui rapporte plus car elle nécessite des traitements coûteux. Pour être potable, l'eau doit subir de nombreux traitements. Filtration, traitement chimique. Les normes concernant la qualité de l'eau évoluent, et c'est une bonne chose. Parmi les polluants majeurs figurent les traces de métaux lourds, les résidus médicamenteux, le radon, qui est un gaz naturel radioactif, l'aluminium, ajouté parfois dans le but de donner à l'eau une apparence plus limpide, et surtout les pesticides et nitrates, car leur élimination nécessite des traitements spécifiques et coûteux. Ceux-ci proviennent essentiellement de l'agriculture, s'infiltrent dans les sols et polluent les nappes phréatiques. En Beauce, grande région céréalière, les nappes phréatiques sont complètement polluées par les nitrates provenant d'un excès d'engrais et cette pollution s'aggrave d'année en année. En Bretagne, les nitrates proviennent des épandages de lisier liés aux élevages intensifs de porcs. Une étude publiée le 25 mars dernier par 60 millions de consommateurs montre que la pollution n'épargne pas l'eau en bouteille. Un échantillon testé sur 5 présentait des pesticides ou des résidus médicamenteux. Certaines communes, assez rares, pour garantir la qualité de leur eau et éviter des traitements de plus en plus coûteux, ont réagi en prenant des mesures préventives. Retour en régie, protection de la ressource en amont. La ville de Paris, par exemple, a acquis les terrains de la vallée de la Vanne, où se situe la zone de captage des eaux de Paris, et y interdit certaines activités agricoles polluantes. L'État français se fait régulièrement tirer l'oreille par l'Europe pour ne pas prendre des mesures significatives visant à réduire la pollution de l'eau. Le laisser-faire est général. Alors qu'il faudrait une politique volontariste, des contrôleurs sanitaires en nombre, des mesures préventives et coercitives contre les gros pollueurs, sous prétexte d'intérêts économiques, l'État se moque du problème et fait confiance aux acteurs économiques. Comme ils disent, puisque Veolia et Suez sont là pour dépolluer, pourquoi s'inquiéter? Un documentaire paru en mai 2010 montre comment l'eau du robinet, dont les taux parfois anormalement élevés de certaines substances toxiques la rend impropre à la consommation, est quand même estampillée par les préfets, conforme par dérogation. Et le ministre de la Santé a refusé de s'expliquer sur cette question. En février dernier, le journal Le Monde a rapporté les propos d'une chef de service à l'ONEMA. L'ONEMA, c'est la police de l'eau, qui explique qu'ils subissent, je cite, « des pressions phénoménales. Parfois, on nous demande de nous contenter d'une mise en garde plutôt que de verbaliser une entreprise polluante. Une autre fois, on nous interdit de contrôler les zones de lavage des engins agricoles sous un prétexte fallacieux. » Fin de citation. Les timides tentatives gouvernementales de maîtrise des pollutions d'origine agricole se sont heurtées à une lutte opiniâtre des gros agriculteurs, éleveurs bretons, céréaliers de la Beauce. Les agences de l'eau, il y en a 6 en France correspondant aux bassins fluviaux, sont chargées, en principe, de faire payer les pollueurs afin de soutenir le financement des travaux de dépollution, de participer à la gestion patrimoniale de l'eau et de veiller à sa qualité. Mais les agences et leurs comités de bassin sont largement aux mains des lobbies agricoles et industriels qui y sont surreprésentés. Ils ont fait de ces comités un instrument qui leur apporte plus d'argent qu'ils n'en dépensent pour dépolluer. Les sommes en jeu atteignent 1,5 milliard d'euros. Les agriculteurs et industriels, à l'origine de 90% de la pollution de l'eau et de sa consommation, se sont débrouillés non seulement pour ne payer que 15% des redevances, c'est-à-dire que c'est les particuliers qui payent les 85% autres, mais aussi pour se redistribuer au titre de l'aide à la dépollution l'essentiel de l'argent versé par les particuliers. Résultat, les soutiens financiers aux pollueurs sont plus élevés que leurs dépenses de dépollution et le système les incite à continuer à polluer pour toucher les aides. La gestion de l'eau ne concerne pas seulement l'alimentation en eau potable, mais également l'assainissement des eaux usées. Dans une commune, c'est souvent la même société qui est chargée des deux. Et pour les multinationales, l'appât du gain prime sur les intérêts des populations. Un exemple, à Bruxelles, Veolia a construit une gigantesque station d'épuration qui était prévue pour traiter les eaux usées d'1,1 million habitants, une des plus grandes stations d'épuration au monde. Le coût de l'opération s'est monté à 2 milliards d'euros. Veolia a obtenu ce marché en invoquant une nouvelle technique de traitement des boues et avec l'aide de l'État français d'ailleurs. Mais cette technique n'était pas au point et le 8 décembre 2009, à peine quelques mois après son démarrage, la station a été stoppée. L'exploitant, Aquiris, c'est une filiale de Veolia, a, sans l'accord des autorités, fermé la station et rejeté les eaux usées de plus d'1 million d'habitants directement dans les cours d'eau pendant 10 jours, engendrant une pollution gigantesque et la mort biologique de la rivière Seine. Sur injonction de la justice, la station a dû rouvrir et la société a été obligée de faire transporter ses boues par camion en Allemagne. La société Aquiris a fini par trouver des améliorations techniques, mais coûteuses, et a réclamé 40 millions d'euros à la collectivité pour les mettre en œuvre. Suite à un rapport rendu par un comité d'experts, le ministre de l'Environnement de Bruxelles a reconnu que l'opérateur privé s'était livré à un odieux chantage afin d'obtenir de nouveaux aménagements financés par le contribuable bruxellois. Malgré une telle irresponsabilité de la part de Veolia, la région bruxelloise, je cite le ministre, entend poursuivre un dialogue ferme mais constructif avec Aquiris. Si l'on peut observer ici quelle aberration représente la gestion capitaliste de l'eau, ailleurs dans le monde, les dégâts se situent à une toute autre échelle. La gestion de l'eau est le reflet de la gestion capitaliste de la société et cette vérité est encore bien plus sensible à l'échelle internationale. Car le capitalisme, ce n'est pas seulement l'exploitation ou la soif de profit, mais aussi l'inégalité de développement. Pays riches et impérialistes d'un côté, pays pauvres sous-développés de l'autre, et l'écart ne fait que se creuser. La France est un pays riche et un pays riche en eau. Ici, les capitalistes se contentent de prélever et de distribuer une ressource qui existe en abondance, en s'engraissant au passage. À l'échelle du monde, où l'eau n'est pas toujours si accessible, il faudrait une politique volontariste, une politique qui viserait à organiser et à planifier les accès à la ressource, à amener l'eau là où sont les besoins, à faire que l'eau ne soit pas un poison. On dispose aujourd'hui des moyens techniques autrement plus puissants qu'à l'époque des pharaons. Si les Égyptiens de l'Antiquité ont appris à détourner l'eau des rivières pour l'amener via les canaux d'irrigation à ce là où les populations en avaient besoin, il n'y a pas de raison technique qu'aujourd'hui, une partie de l'humanité soit privée d'une eau salubre. L'Organisation mondiale de la santé définit ce qu'elle appelle l'accès à l'eau potable par la possibilité d'obtenir 20 litres par habitant et par jour à partir d'un point d'accès situé à moins d'un kilomètre ou, si l'on préfère, 30 minutes de marche aller-retour. Selon ce critère, plus de 800 millions d'individus n'ont pas accès à l'eau potable. Mais au-delà de ce chiffre officiel, Un conseiller pour l'eau du secrétaire général de l'ONU avance même le chiffre de 3,5 milliards d'hommes qui n'ont pas un accès satisfaisant à l'eau potable, un être humain sur deux. En ce qui concerne les eaux usées, ce sont 2,6 milliards qui n'ont pas accès à un assainissement de base. L'eau est source de vie, mais contaminée par des germes, elle est aussi responsable de nombreuses maladies, dont certaines s'avèrent mortelles si elles ne sont pas soignées. Et là aussi, les chiffres sont terribles. 2 200 000 personnes meurent chaque année de maladies diarrhéiques, et notamment du choléra, maladie transmise par l'eau de boisson ou les aliments souillés. Un enfant de moins de 5 ans décède toutes les 15 secondes par défaut d'accès à l'eau potable. Par ailleurs, des centaines de millions de personnes sont malades, handicapées, diminuées par des maladies parasitaires ou bactériennes contractées en buvant une eau contaminée. En Haïti, par exemple, l'épidémie de choléra est apparue quelques mois après le séisme de janvier 2010. Son développement est directement lié au manque de réseaux d'eau potable et d'assainissement. On estime que la maladie a touché 330 000 personnes et déjà fait 7 600 morts. Après le passage du cyclone Sandy en octobre dernier, les choses ont empiré et on est passé de 44 cas mensuels à 200. Une situation qui doit beaucoup à l'inefficacité criminelle des grandes puissances et des institutions censées aider le pays à se relever. Le rapport à l'eau est fondamental dans toute civilisation car il conditionne en premier lieu l'agriculture. Sans eau, pas d'agriculture. Or, de l'agriculture dépend bien sûr l'alimentation. Et si l'on meurt rarement de soif, on meurt sur cette planète très souvent de faim ou de malnutrition. En précisant que ce sont souvent les mêmes qui souffrent de la faim et donc sont affaiblis et qui sont malades d'avoir consommé une eau insalubre. Les chiffres sont connus et ils sont profondément révoltants. 2 milliards d'êtres humains souffrent de carences alimentaires. 1 milliard de sous-alimentés. Un enfant mourant toutes les 5 secondes des conséquences de la malnutrition. Mais si la faim tue, c'est qu'on meurt de misère. Et c'est sans doute là la preuve la plus tragique de l'irresponsabilité de la société capitaliste, incapable d'assurer la survie de l'humanité entière. La difficulté d'apport en eau pour les cultures, là où les gens vivent, est la raison première, naturelle, de cette situation. Mais nous ne sommes plus au Moyen-Âge. Et ce n'est pas le manque de pluie qui fait que l'on meurt aujourd'hui de faim en Afrique. C'est l'organisation économique et sociale démente de cette société qui est responsable de la faim dans le monde, pas le climat, la géographie ou la démographie. On a beau parler du réchauffement climatique, des sécheresses dans différentes régions du monde, si l'on raisonne globalement, notre planète bleue ne manque ni d'eau ni d'eau douce. L'homme a besoin d'ingérer, sous une forme ou sous une autre, quelques litres d'eau chaque jour. Même à 7 milliards d'êtres humains, cela représente une goutte d'eau. Par rapport à l'ensemble des ressources d'eau douce présentes, même là où il y en a très peu, même dans les zones arides. Sauf situation extrême individuelle, on ne meurt pas de soif, même si l'on vit au Sahel. Non, le problème est d'accéder à une eau potable, c'est-à-dire non polluée et non contaminée. Prenons l'exemple du Bangladesh. Un pays de 145 millions d'habitants, situé sur le delta du Gange et du Brahmapoutre. Un pays dont 10% de la surface est constituée d'eau. Un pays soumis à la mousson et aux inondations récurrentes, par terre, par ciel et par mer. Ce n'est donc pas l'eau en général qui manque. Même douce, mais bien l'eau salubre. Dans les années 70, ont ainsi été creusés au Bangladesh des millions de puits pour fournir de l'eau souterraine potable aux habitants qui mouraient en grand nombre, surtout les enfants, du fait de boire des eaux de surface, l'eau des fleuves ou des étangs, fortement contaminées en bactéries pathogènes. On aurait pu croire le problème réglé avec ces puits. Mais dans les années 1990, on a compris que l'eau puisée dans ces nappes souterraines, était elle-même empoisonnée, notamment par de l'arsenic d'origine géochimique, donc naturelle. Toujours est-il que des dizaines de millions de personnes souffrent de ce fait de cancer ou de maladies cardiovasculaires, et on estime à plus de 200 000 le nombre de décès dus à l'arsenic dans le seul Bangladesh. Et quand ce n'est pas l'arsenic, ce sont les pollutions agricoles, engrais, pesticides, de cette région très fertile et très cultivée qui rendent l'eau des nappes insalubre. De plus, pour les régions proches des côtes, les nappes souterraines se remplissent peu à peu d'eau de mer, donc d'eau salée impropre à la consommation, un phénomène qui s'amplifiera avec la montée du niveau de la mer, qui pourrait d'ailleurs inonder aussi de nombreuses terres. La seule solution apportée souvent par des organismes humanitaires tels que l'UNICEF aux pauvres des zones rurales, et ils sont nombreux dans ce pays, a consisté à la fin des années 2000 en l'installation de citernes de récupération d'eau de pluie. Une solution certes simple et économique, mais qui n'empêche pas que des millions de Bangladais passent chaque jour des heures à aller remplir et à transporter des bidons d'eau potable. Au passage, signalons que partout dans les régions arides ou pauvres, ce sont les femmes qui payent un lourd tribut, lourd au sens propre, à l'absence d'accès à l'eau potable, puisque ce sont elles qui passent une partie importante de leur temps, dès le plus jeune âge, au transport des bidons et autres récipients d'eau. C'est la corvée de l'eau pour les femmes pauvres. Pour revenir à l'arsenic, des procédés de traitement existent, ne serait-ce que sous forme de filtres. Mais le marché capitaliste n'en a cure. Le capitalisme ne s'intéresse qu'au marché solvable, c'est-à-dire aux gens qui ont les moyens de payer. Au Bangladesh, même la simple information des populations sur les dangers de l'eau est déficiente. On voit bien sur cet exemple que l'eau n'est pas le problème en soi, c'est le problème de l'organisation sociale, des priorités économiques du monde capitaliste qui sont ailleurs. Quand il n'y a pas de profit au bout, le capitalisme ne s'intéresse pas aux populations, elles peuvent continuer à mourir en silence. Si la qualité de l'eau de boisson ingérée a évidemment un impact direct sur la santé, les volumes concernés, on l'a dit, sont dérisoires. Les familles, les foyers ont par contre besoin d'un volume suffisant d'eau qualifiée de domestique, celle qui sert à laver au sens large, laver les mains, le corps, laver les aliments, les vêtements, laver les sols. À l'échelle mondiale, la moyenne de l'eau domestique utilisée est de 170 litres par jour par personne, faisant une moyenne. Mais seulement 14% de cette eau est réellement consommée et donc disparaît, le reste retourne dans le milieu naturel. Mais ce chiffre moyen masque de grandes disparités. 280 litres par jour par personne pour la France, jusqu'à 600 litres en Australie ou aux États-Unis, mais seulement 5 litres en Haïti ou au Mozambique. À part des Malthusiens bornés, personne ne dit aujourd'hui que c'est la consommation domestique des 7 milliards d'êtres humains qui menacent la planète de pénurie. C'est surtout l'industrie et l'agriculture qui sont montrées du doigt comme responsables d'un risque de pénurie d'eau dans les années à venir. En fait, pour l'industrie, ce n'est pas la quantité d'eau prélevée qui pose problème. On estime qu'elle s'élève à 550 litres par jour et par habitant, dans les pays industrialisés comme l'Europe. C'est seulement deux fois plus que les prélèvements domestiques. Mais surtout, cette eau n'est pas à proprement parler consommée. Elle sert à la dilution des solvants, au lavage des matières, des sols ou des structures, et surtout au refroidissement, notamment dans les centrales thermiques de production d'électricité, qu'elles soient nucléaires ou à combustible fossile. Cela fait au total pas mal d'eau, mais la majeure partie de cette eau, 90%, est rejetée dans le milieu naturel. Elle est souvent polluée, et même parfois dangereusement polluée par des métaux lourds et des produits chimiques toxiques du fait d'accidents, disent les patrons, mais qui sont en réalité des négligences calculées. Ceci dit, l'industrie ne consomme que 4 à 5% de l'eau consommée à l'échelle mondiale, très loin derrière l'agriculture, et cette proportion ne devrait pas croître sensiblement. Le secteur qui a le plus fort impact sur les ressources en eau et qui est inversement le plus dépendant de l'état de ses ressources, c'est l'agriculture. Aujourd'hui, l'agriculture représente à elle seule environ 70% de l'eau prélevée dans le monde, c'est-à-dire retirée du milieu naturel par irrigation ou pompage. Mais si on regarde non pas seulement l'eau simplement prélevée, mais consommée, c'est-à-dire qui ne retourne pas immédiatement dans le milieu naturel, l'agriculture représente 96% de l'eau consommée dans le monde. En effet, les plantes, les légumes, les fruits produits par l'agriculture conservent ou transpirent et donc consomment, si on peut dire, les deux tiers de l'eau qu'il aurait apportée, que cet apport se fasse artificiellement par irrigation ou arrosage, ou naturellement par la pluie. L'essentiel de l'agriculture mondiale, soit 83% des surfaces cultivées, n'a pas besoin d'apport d'eau autre que la pluie qui tombe naturellement dans de nombreuses régions. Mais la pluie est loin d'être uniformément répartie à l'échelle de la Terre. En fait, plus que le manque de pluie ou même d'eau en général, ce qui manque, c'est la volonté de mettre en place les apports hydriques à suffisamment de terres pour les rendre cultivables. Et plus encore que le manque de terres agricoles, c'est l'accaparement des meilleures terres par les multinationales de l'agroalimentaire qui les utilisent pour des cultures d'exportation au détriment des cultures vivrières, laissant aux populations locales les terres peu fertiles et arides. C'est principalement l'organisation de l'agriculture capitaliste à l'échelle du monde qui crée la pénurie d'eau. C'est en accaparant les bonnes terres, bien arrosées ou irriguées, qu'on vole l'eau aux pauvres. C'est aussi parfois un vol direct par les usines de production de boissons en bouteille. En Inde, Coca-Cola et Pepsi-Cola possèdent 90 usines d'embouteillage qui pompent l'eau des nappes phréatiques au détriment des agriculteurs locaux. Il faut 9 litres d'eau potable pour faire 1 litre de Coca-Cola. Chaque usine extrait entre 1 million et 1,5 million de litres d'eau par jour grâce à des pompes ultra-puissantes, ce qui a déjà provoqué l'assèchement de 260 puits et la baisse des rendements agricoles et a amené de nombreux mouvements de protestation des paysans. Selon la Banque mondiale, 29% des habitants du pays dépendent de nappes phréatiques en situation critique ou semi-critique. Face à ce constat global effarant, voyons comment la communauté internationale, comme on dit, s'est emparée de la question de l'eau depuis une vingtaine d'années. Disons tout de suite que les institutions internationales ne se sont donné aucun moyen réel d'action dans ce domaine. Les casques bleus de l'eau, ça n'existe pas. On se contente de grandes résolutions internationales pour la galerie. Tout ce cinéma a pour fonction première de se donner bonne conscience et de faire croire au monde que l'on mène une véritable action. L'Organisation mondiale de la santé a défini en 1990 ce qu'ils ont appelé la cible 10 de l'objectif 7 du millénaire. Alors, je vais citer cette cible. Réduire de moitié d'ici 2015 le pourcentage de la population mondiale ne bénéficiant pas d'accès à l'eau potable, pourcentage qui était alors de 23%. Même si l'objectif semble en passe d'être atteint, il restera à échéance près de 900 millions d'hommes, de femmes, d'enfants condamnés à vivre sans accès à l'eau potable, ce qui est scandaleux. Et cette situation est considérée comme acceptable pour les dirigeants de cette société, puisque c'est l'objectif qu'ils s'étaient fixé pour 2015. Mais même là où la distribution d'eau domestique, potable ou non, se fait, les populations ne sont pas pour autant à l'abri des épidémies en tout genre. Car plus que la distribution d'eau dans ou auprès des foyers, c'est l'évacuation et le traitement des eaux usées qui est déterminante pour l'endiguement des maladies infectieuses ou contagieuses. Installer un point d'eau dans un quartier à forte densité humaine sans mettre en place un réseau d'assainissement, un réseau, au moins un système d'égout, ou même plus modestement des latrines aménagées, peut rendre le quartier encore plus insalubre en ne prévoyant pas l'évacuation des eaux usées ou souillées qui peuvent s'accumuler, stagner et devenir des foyers d'infection ou héberger des larves de moustiques à l'origine de maladies telles le paludisme ou la dengue. Or, de ce point de vue, les objectifs du millénaire dont j'ai parlé, définis par l'Organisation mondiale de la santé, sont loin, eux, d'être remplis. En 1990, plus d'un être humain sur deux n'avait pas accès à un dispositif d'assainissement. La cible pour 2015, c'était de réduire cette proportion à 1 sur 4, hein, toujours divisé par 2. Ce qui revenait à considérer comme satisfaisant le fait que 1,8 milliard d'hommes en soient toujours privés. Mais ce ne sera même pas le cas. On en prévoit 2,4 milliards, le même nombre qu'aujourd'hui. Et ce chiffre, déjà mauvais en lui-même, masque des disparités énormes. Au rythme actuel, l'Afrique subsaharienne atteindrait seulement en 2076 l'objectif modeste fixé pour 2015. Le choléra, maladie moyenâgeuse, n'a donc pas fini de sévir dans le monde. tant qu'il sera capitaliste, ou si l'on veut, on n'est pas sorti du Moyen-Âge. Signalons aussi qu'au Forum mondial de l'eau qui s'est tenu en 2003 à Kyoto, les congressistes, qui ne sont en rien des gauchistes, ont fait remarquer que pour atteindre les objectifs de 2015 en matière d'assainissement, il suffirait de 10% des dépenses militaires mondiales. L'ONU avait déjà établi dans sa résolution A47-719, votée le 22 décembre 1992, que, je cite, « la mise en valeur des ressources en eau contribue à la productivité économique et au bien-être social ». Une formule pour le moins ambiguë. Fort de ce constat, l'ONU décida immédiatement d'une journée mondiale de l'eau, le 22 mars de chaque année. Avec comme but affiché, je cite, de promouvoir la conservation et la gestion des ressources en eau. En 2003, l'ONU alla plus loin, elle décréta carrément une décennie internationale d'action, 2005-2015, intitulée « L'eau, source de vie ». Avec ça, on pouvait être rassuré. La même année, s'était mis en place un organisme dit indépendant, le Conseil mondial de l'eau, soutenu par la Banque mondiale et les Nations unies, et associant tous les acteurs de l'eau, gouvernements, collectivités locales, ONG, scientifiques, industriels et accessoirement des représentants de sociétés de distribution d'eau, comme Veolia ou Suez, des experts, quoi. Cet organisme a élaboré rien moins qu'une vision mondiale de l'eau, censée s'attaquer vraiment au problème pour les 25 années suivantes, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Après avoir étudié divers scénarios, la vision a retenu le scénario intitulé « Valeurs et modes de vie », dans lequel on trouve partout les mots « espoir », « solidarité », « transparence », « respect », « coopération », « développement durable », bien sûr. Un chiffrage des besoins a ensuite été fait, quelques dizaines de milliards de dollars par an, admettant au passage qu'il n'y a pas d'obstacle technique à la résolution du problème de l'accès à l'eau pour tous. Restait juste à trouver qui va payer. Après de longues réflexions, de multiples congrès réunissant jusqu'à 15 000 participants, où l'on invite des représentants de pays pauvres à venir raconter leurs besoins ou leurs réalisations, après la diffusion de plaquettes avec de belles photos d'enfants africains souriant devant un robinet d'eau claire ou des latrines toutes neuves, la vision a trouvé la solution. Et cette solution, c'est la privatisation du marché mondial de l'eau. Plus précisément, il s'agit de faire payer l'eau à un prix, bien sûr, équitable, et de laisser le secteur privé réaliser les investissements nécessaires que les pays pauvres sont incapables d'assurer, puis de le laisser se rembourser grâce aux sommes équitables payées par les usagers. Il suffisait d'y penser et tout le monde en sortirait gagnant. Pour les sceptiques, ajoutons, comme nous l'explique la vision, que la gestion privée est bien sûr connue comme plus économe et efficace que la gestion publique, et que le fait de faire payer l'eau réduit les gaspillages, responsabilise les usagers et motive à la recherche de méthodes innovantes. Attention, ce n'est pas l'eau elle-même qu'on fait payer. Un bien commun de l'humanité, ça ne se fait pas payer. Non, c'est le service. Collecte, transport, purification, distribution. D'ailleurs, il est établi très clairement que les crédits aux pays pauvres distribués par le FMI ou la Banque mondiale s'accompagneront systématiquement d'une obligation de privatisation complète des services de distribution d'eau. Sinon, ça ne marchera pas. Mais les institutions internationales ne se contentent pas d'une vision platonique. Lorsque leur proie est affaiblie, telle des hyènes, elles passent à l'attaque. Ainsi, la Commission européenne et le FMI ont prévu la privatisation de la Compagnie nationale Aguas de Portugal en échange d'un prêt à ce pays et exigent aujourd'hui en Grèce la mise en vente des compagnies des eaux d'Athènes et de Thessalonique. D'ailleurs, Hollande, reçu en février dernier en Grèce, a annoncé en bon représentant de commerce que les entreprises françaises seront présentes. Vous voyez à qui il pense. Le laisser faire La confiance aveugle dans le marché, des résolutions internationales dérisoires, des journées mondiales de l'eau, l'irresponsabilité érigée en système, voilà ce qui tient lieu aujourd'hui de politique de l'eau à l'échelle de la planète. Les grandes questions écologiques, et en particulier celles de l'eau, ne peuvent trouver de réponse satisfaisante pour l'humanité qu'à l'échelle internationale, par un volontarisme politique passant outre les intérêts privés et nationaux. Et je m'arrête là pour l'instant, on reprendra après une pause.